France Culture.
C'est un mytho, un escroc, hein, quand même, c'est un phénomène.
Le Pic-Assiette, une série d'Alain Lefkovitch et Sonia Kronlund.
Le loi faisait l'événement, il était devenu le must.
C'est une histoire qui prête à rire, hein. Sauf qu'il peut mettre les gens par terre, quoi.
Épisode 4, le coup de maître.
Nous sommes au début du siècle, en 2002. Alain Jaulois a laissé derrière lui Daniel Goldenberg et s'installe à Périgueux, en plein hiver, sous le nom d'Alan MacGregor, lord écossais anobli par la reine Elisabeth II. Il ne ment pas lorsqu'il dit qu'il est assigné à résidence à Périgueux. Mais d'après lui, ce sont les suites de l'affaire Elf, une retentissante collision politico-financière qui a fait scandale à cette époque. En réalité, il est condamné pour plusieurs escroqueries. Il a notamment fait croire à un agent immobilier que le clan MacGregor possédait 3 à 4 000 appartements éparpillés à Paris et qu'un grand nombre était à vendre. Plus c'est gros, plus ça passe. Il s'est alors fait héberger par l'agent immobilier et royalement entretenir pour une somme estimée de 12 à 18 000 euros. Il est désormais sous contrôle judiciaire et doit pointer régulièrement au commissariat. Alan MacGregor va alors construire à Périgueux son personnage le plus fameux de scénariste et réalisateur. Périgueux sera sa plus célèbre affaire, au retentissement national, voire international. Hollywood à Périgueux, s'il vous plaît. À côté, le petit film de Claude Lelouch fait pâle figure. Et puis, ici, il a du temps devant lui. Il commence donc en douceur, avec l'écriture et la réalisation d'un court-métrage intitulé « Strange Feelings » et inspiré, dit-il, du film « La vie est belle » de Capra. Cette fois, le projet est concret. Le scénario existe bel et bien et dans la torpeur hivernale, les pétrocoriens, comme on les appelle, s'emballent. Jaulois ne demande rien, mais presque tous se pressent pour offrir leur concours gracieux. Il faut dire qu'il a vissé une casquette qui lui donne un faux air de Spielberg. Toute une petite troupe se forme. Il y a les aspirants figurants, les techniciens et bien sûr la régie, chargée de nourrir et de déplacer toute l'équipe. À Périgueux, Jaulois vit avec une femme dont on ne sait pas grand-chose dans une maison qu'elle a probablement louée. Autour d'eux, c'est un joyeux ballet de visites et de préparatifs, de réunions et de répétitions. Un journaliste de Sud-Ouest qui va suivre Jaulois pendant les 10 prochaines années raconte cette ambiance à Olivier Chaumel, un producteur de France Culture. En 2005, ce dernier consacre un épisode de l'émission Le Vif du Sujet à l'affaire de Périgueux, dont viennent la plupart des extraits qu'on va entendre dans cet épisode.
Concrètement, je me rappelle Jaulois en train de casser la croûte, par exemple, avec des figurants chez lui, très nombreux, enfin, qui venaient aux nouvelles, qui venaient... Tous les jeunes qui étaient, avec quelque chose dans les tripes, allaient chez lui, essayaient de jouer pour lui. Enfin, il était devenu le must. Bon, je me rappelle des auberges en ville qui étaient remplies de gens autour de Jaulois. Jaulois faisait l'événement. C'est un garçon très séduisant, très intelligent, très... C'était pas seulement une mascarade, quoi. Il y avait aussi une façon d'être qui fatalement entraînait les suffrages, quoi. C'était un type de... très bon, quoi. Capable de faire prendre des vessies pour des lanternes. Je me rappelle telle commerçante qui disait, oh là là, mais il est tellement bien, il aide ma fille à faire des devoirs de philo, etc. Enfin, donc, c'était aussi le bon grand frère, le bon étudiant qui venait aider dans les familles.
Et puis, le tournage a lieu. Il y a des photos où on voit Jaulois derrière la caméra avec l'œil rivé sur le viseur. Un des interprètes s'appelle Maurice Hakem. Il est préparateur en pharmacie, mais il fait aussi du théâtre, il anime une radio locale et se rêve comédien. Il obtient un rôle aussi étrange que le film lui-même.
J'ai joué le rôle d'un demi-ange pour Strange Feeling. J'étais censé sauver la vie à une personne qui allait se suicider. Et comme moi j'étais un demi-ange, donc j'étais en période probatoire, eh bien il fallait que je prouve que j'ai les qualités d'un ange. Et pour prouver que j'avais les qualités d'un ange, je devais sauver cette personne. Et pour cela, je devais lui dire, mais ne te suicide pas, car si tu te suicides, voilà ce qui va arriver aux gens que tu aimes et à tes amis. Et je disais, il y a des choix impossibles ici-bas, comme celui de disparaître avant l'heure. Tu vois, il y a plein de tirades qui sont vraiment sympas. C'était vraiment de très beaux scénarios.
Ce court-métrage, qui reflète probablement la psyché tourmentée d'Alain Jolois, n'est pas vraiment resté dans l'histoire du cinéma. À ma connaissance, aucune copie n'en est visible aujourd'hui. Ce qui n'empêche Alan McGregor d'enchaîner avec un second petit film, cette fois à la demande du musée militaire de la ville. Le commandant Jacques Dornier en est le président, il a entendu parler de ce cinéaste sympathique et comme tout le monde, il veut son quart d'heure de gloire.
Notre idée avait été de faire un petit reportage sur le musée, si on peut appeler ça un reportage. Mais je trouvais que ce qu'avait proposé M. Jolois était très bien. Parce que ça montrait le musée militaire sous un autre angle, bien sûr, et c'était quand même assez convaincant. Monsieur Jolois a trouvé une histoire qui cadrait bien avec le musée militaire, puisque le court-métrage dont il s'agit s'appelle « Ordonnance fantomatique », qui est l'histoire du fantôme de l'aide de camp du général Doménil, qui était le lieutenant d'Aribaud.
Voici aussi quelques dialogues entre le commandant Dornier et un personnage féminin.
Alors, commandant, on fait des siennes, on croit aux chimères. Sous prétexte que vous allez avoir des effets militaires écossais, vous croyez aux fantômes. Le problème, Jacques, c'est que nous risquons de nous rendre ridicules.
Le ridicule ne tue pas, mademoiselle, sinon ça se saurait. Et puis, lorsque vous n'étiez qu'une enfant, ne croyez-vous pas aux fées ? Allons, de bonne grâce, avouez, la situation est particulière.
Quoi ? Un fantôme ?
La belle affaire. Alors, détendez-vous, ma chère. Prenez les choses à la périgourdine, de façon placide.
Ça serait facile de se moquer, du jeu pitoyable, des dialogues minables. En réalité, cet extrait brasse des thèmes qu'on va retrouver partout dans les différentes escroqueries de Jolois, si on peut appeler ainsi la somme de toutes les histoires, personnages et fantaisies que son imagination fertile a brassées en 40 ans. Il y a le rapport incertain au réel, la croyance aux chimères qui est un autre nom du mensonge, la peur du ridicule et l'ancrage local. Valoriser le terroir, la petite ville de province, le local. Et puis, cinéaste d'une certaine façon, c'est ce qui se rapproche le plus de mythomane ou de mégalomane. Un homme qui recrute toute une équipe et demande beaucoup d'argent pour donner vie à ce qu'il a imaginé, à une idée qu'il trouve suffisamment géniale pour ça. C'est après avoir fini ce deuxième petit film, dont tout le monde est ravi, qu'Alan glisse nonchalamment à qui veut l'entendre que DreamWorks, la major américaine fondée par Steven Spielberg, a pris une option sur un scénario dont il est l'auteur. Et ce scénario se passe justement dans la région de Périgueux. Incroyable ! L'animateur du club théâtre, Maurice Hakem, s'en souvient.
Lui m'avait parlé d'un scénario qu'il avait depuis longtemps, sous le coude, le fauteuil vert, bon, il avait ça, que ça valait beaucoup, beaucoup d'argent parce que ça intéressait des gens du cinéma, mais là, des hauts placés, quoi. Bon.
Et voilà, parmi les gens hauts placés, qu'il y a Julia Roberts.
Julia ! Sur un tapis rouge de Cannes, nous allons parler avec Julia Roberts. Julia !
Julia Roberts, en 2002, c'est l'actrice la mieux payée du monde. C'est Pretty Woman, la Cendrillon des années 90. Mais déjà, Erin Brockovich, la mère de famille célibataire, qui va révéler toute seule un scandale de pollution. Une actrice au cœur aussi grand que sa large bouche. Une star hollywoodienne qui incarne quelque chose de joyeux, de généreux et tellement sexy en même temps. Pour faire rêver, elle fait rêver. Or, figurez-vous que la comédienne est intéressée par le rôle principal du fauteuil vert et veut se rendre elle-même sur les lieux en repérage. Certains ricanent au début, d'autres sont sceptiques, et puis ça passe, car c'est très gros et très tentant. Tous se laissent alors embarquer dans un tourbillon qui balaie littéralement la ville de Périgueux au cœur de l'hiver. Chacun y cherche un peu d'aventure, de gloire, de l'extraordinaire, un tapis rouge vers l'inconnu. Mais pour accueillir pareille vedette, il faut d'abord être organisé, précis et nombreux. Il y aura du travail pour tout le monde. Il faut trouver une maison avec une piscine chauffée, plusieurs voitures avec chauffeur pour la star et ses assistants, des chambres d'hôtel pour tout ce personnel et surtout une équipe de sécurité d'une douzaine de personnes pour la protéger et sécuriser les lieux. Julia voudra sûrement auditionner de futurs collaborateurs, maquilleurs, costumiers, peut-être rencontrer des comédiens français pressentis. Il faut identifier toutes ces personnes dans la région. Jolois établit également un programme de visite des lieux et de rencontres avec les notables. Jean-Marie Priat-Lamont est un ancien militaire à la retraite qui a ouvert une salle de sport. Il est tout désigné pour s'occuper de la sécurité. Bientôt, il gère la totalité de l'événement en duo avec Jolois. Il avance les frais, commande du linge, du champagne, des fleurs. Il associe les cavistes locaux et les restaurants. Il alimente la machine. En ville, on ne parle que de ça. On s'agite, on discute. L'animateur du Club Théâtre de Périgueux, Maurice Hakem, y voit la chance de sa vie de se faire valoir. Jolois lui a proposé le seul rôle français. L'hôpital privé et le musée militaire acceptent également d'accueillir le futur tournage. La mairie prête du matériel et affecte des policiers pour sécuriser la ville et l'équipe pendant les repérages. Un restaurant s'engage à offrir des repas et plusieurs bénévoles se proposent. Jean-Marie Priat-Lamont, l'ancien militaire, recrute les gardes du corps et leur procure des tenues identiques.
Tous les contrats avaient été signés, donc ça fait 10 personnes pour la protection, 10 avec moi, ça fait 9 personnes pour la protection rapprochée. C'est ce qu'il fallait comme nombre pour protéger une personne de cette notoriété-là. Donc tout s'est accumulé, quoi. La maison, les locations des véhicules, l'hôtel, parce que soi-disant les avocats de New York devaient arriver. C'était Cohen, Cohen et Cohen. Donc ces avocats assez réputés dans le monde entier et connus.
Il ne faut pas oublier non plus le thé très spécial que boit Julia Roberts et en commander de grandes quantités. En réalité, le thé est une des obsessions d'Alain Jolois, au point que des années plus tard, il contacte un célèbre créateur de thé parisien, se fait livrer pour près de 500 euros d'échantillons, tout en lui promettant de lui acheter 3 millions d'euros de marchandises pour diffuser ses infusions à toute l'Écosse. Pour revenir à Julia, il faut bien également commencer à rembourser Jean-Marie, l'ancien militaire, de tous les frais qu'il a avancés. Alan McGregor lui remet donc tout naturellement un chèque de 30 500 euros que le receveur dépose aussitôt à sa banque. Sauf qu'à aucun moment, la banque ne vérifie la solvabilité du chèque et ne s'aperçoit qu'il est rejeté 3 fois. Pendant ce temps, Jean-Marie, l'ancien militaire, continue à tout régler avec son propre compte.
Toutes ces dépenses, je les ai faites, effectivement. J'ai dû payer tous les salaires, j'ai dû payer tous les, locations, les repas, tous ces trucs-là.
Le jour tant attendu arrive enfin. La délégation se rend solennellement à l'aéroport de Mérignac, à côté de Bordeaux, pour accueillir la vedette hollywoodienne et tout ce qu'elle transporte avec elle de glamour et de paillettes. D'après le journal Sud-Ouest, ils sont une trentaine. Il y a tout ce qu'on imagine. Les bouquets de fleurs, le balai de limousine, les hommes engoncés dans leurs costumes gonflés de fierté et d'importance. Tout le staff recruté par Jolois est présent, mais aussi des représentants de la ville, du département et du conseil régional. La presse locale et nationale est au taquet, les caméras prêtes à dégainer. L'avion doit se poser à 20h. La longue attente commence. La sécurité est sur les dents. L'angoisse mêlée d'excitation est palpable. Le cinéaste comble l'attente de son flot de paroles habituel. Il est parfaitement détendu. Les heures passent, la nuit tombe. Des avions se posent, des jets même, mais ceux qui en sortent ne ressemblent jamais à la créature de rêve et sa chevelure mousseuse. Et puis, il y a ce coup de fil que reçoit Jolois. Il s'éloigne un peu, parle longuement, entre nous on se demande bien à qui. L'appel semble durer une éternité. Et puis Jolois revient vers la délégation, toujours aussi calme. Il annonce à la compagnie qu'il a parlé à l'attachée de presse de Julia Roberts. Elle ne viendra pas. Le jet privé ne se posera jamais. Il y a eu un problème. La délégation reste muette, stupéfaite. On imagine que certains commencent à comprendre et que la peur du ridicule commence aussi à pointer son nez. Les fleurs repartent dans les voitures, les écharpes tricolores sont rangées et la troupe se replie, bredouille, noyée sous de nouvelles explications de Jolois. Au procès qui s'ensuit, Jolois, cité par Libération, se justifie en expliquant que l'attaché de presse de Julia Roberts l'a harcelé, qu'elle l'appelait 15 fois par jour. « J'ai accepté qu'elle vienne, dit-il, et toute la ville s'est enflammée. C'est une honte de vouloir faire croire que j'ai pu mentir. » Maurice Hakem, du club théâtre, répond lui à la presse et se range du côté de ceux qui ne sont pas si mécontents.
« Moi, j'en retiendrai que les bons souvenirs quand même. » Et puis va savoir, la preuve, vous êtes là ici, les télévisions sont venues me voir, et bien voilà. Et mais quelque part, il y a une reconnaissance quand même du travail qui a été effectué, même si ce n'est pas le bon motif.
Jolois est condamné en première instance à 3 ans de prison, dont la moitié avec sursis, ce qui est quand même très lourd. Il doit surtout rembourser l'ancien militaire de ses 30 500 euros. Comme il est insolvable, il propose de lui rendre l'argent sous forme de mensualité de 50 euros, ce qui demanderait, si on calcule, 50 années de remboursement mensuel. Il s'y plie pendant 4 mois. Jean-Marie récupère 200 euros sur ses 30 000. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. 3 ans après Périgueux, au moment où le jeune producteur de France Culture, Olivier Chaumel, enregistre son documentaire, Jolois accepte de lui donner un entretien. Il y parle de Balzac. Son histoire, dit-il, c'est celle de la comédie humaine. Et cet épisode, c'était le tome 2 des scènes de la vie de province, le cinéaste Périgourdin.
J'ai un petit plus que les autres, finalement, pour encaisser tout ça. J'ai lu tout Balzac. Balzac dépeint l'âme humaine différemment de la Bruyère dans ses caractères, mais dans la même lignée, il est acide, et ma vision des gens est peut-être acide, mais avec un recul amusé sur le genre humain, parce que, auquel j'appartiens, je suis pas, moi aussi je suis un personnage de Balzac.
La plupart des personnages de la comédie humaine, on le sait, ont l'âme noire, ne sont mus que par leur intérêt cynique et leurs passions aveugles. Se qualifier de personnage balzacien, c'est donc loin d'être un compliment. Jolois fait ainsi preuve d'une certaine lucidité. Dans cet entretien à Olivier Chaumel, il mentionne également une expertise psychiatrique à laquelle il s'est soumis.
Oui, c'est dans le cadre de l'instruction de l'affaire pour laquelle j'ai été condamné en février 2003. Effectivement, j'ai été soumis à une expertise psychiatrique à Bordeaux, l'établissement pénitentiaire de Gradignan, où je logeais. Et j'ai rencontré une charmante dame pendant 11 minutes, qui a fait de moi un mythomane, conscient et escroc.
La psychiatre se nomme Anne-Marie Lemerle. Elle est toujours experte auprès du tribunal de Bordeaux. Dans le compte-rendu que nous nous sommes procuré, elle observe rapidement chez lui ce qu'elle qualifie de mythomanie galopante. Mais elle exclut toute agressivité ou violence physique. Je précise que dans la classification des troubles psychiatriques actuels, ce qu'on appelle le DSM, la mythomanie n'est pas considérée comme une maladie mentale à part entière. C'est plutôt un symptôme, généralement associé à d'autres troubles mentaux que la psychiatre appelle ici vaguement « troubles de la personnalité ». Anne-Marie Lemerle note aussi une absence totale de culpabilité, de remords et des faibles capacités d'introspection. Elle souligne le peu d'effet que les peines de prison ont sur lui. L'incarcération semble même faire partie de son discours mythomaniaque et de son parcours idéalisé, écrit-elle. À la fin, Anne-Marie Lemerle conclut que le sujet doit être considéré comme responsable de ses actes, dans la mesure où son discernement et le contrôle de ses actes n'étaient pas altérés au moment des faits, au sens de l'article 122.1 du Code pénal. Ce compte-rendu est un document précieux, car il répond à tout un tas de questions qu'on se pose naturellement, comme par exemple, est-il dangereux ? À quoi la psy répond « oui, la dangerosité du sujet est certaine », car il présente un bon niveau intellectuel, est beau parleur et semble être en capacité d'entraîner dans sa débâcle des personnes plus fragiles que lui. Et c'est un peu ce qui va se passer par la suite. Plus Jolois vieillit, plus ses proies sont fragiles et vulnérables. Il y a quand même un petit espoir. Anne-Marie Lemerle explique qu'en détention, Jolois rencontre régulièrement la psychothérapeute de la prison et qu'il juge cette démarche intéressante. Elle encourage les magistrats à lui permettre de poursuivre cette expérience qu'elle espère lui être, je cite, « légèrement bénéfique ». Mais elle estime, je cite encore, « la curabilité peu probable et la réadaptabilité pareille ». Cette expertise déplaît tellement à Jolois qu'il demande 6 mois plus tard une contre-expertise. Les deux hommes qui s'en chargent semblent s'amuser davantage et citent volontiers Jolois qui leur parle de ses besoins très limités, un gin tonic à 18h et de la cornemuse le matin. Ils émettent quelques hypothèses avec des mots plus ronflants comme tachypsychie ou processus de type paraphrénique, mais à la fin, ils rendent à peu près le même avis qu'Anne-Marie Lemerle sur la responsabilité et la curabilité. Au cours des 2 entretiens, Jolois donne la même version de son histoire familiale. Elle paraît moins fantaisiste que d'habitude. Il aurait grandi dans Lyon avec ses grands-parents. Il mentionne un père ancien militaire qui aurait participé à la guerre d'Algérie. Et une sœur, un peu plus âgée que lui, qu'il appelle Martine, et c'est vrai. Elle ne veut pas témoigner, mais je lui ai parlé au téléphone. Se pourrait-il donc qu'il y ait pour une fois dans ses propos des bribes de vérité ? À quoi ressemble donc cette enfance dans Lyon ? Comment est-ce que tout ça a commencé ? Y a-t-il encore des personnes qui se souviennent de lui ? À toutes ces questions, nous avons trouvé quelques réponses. Thank you.
drift to the sky in time, while arms keep holding tight. There's a party in full force. Still the guests can't help but watch the door.
C'était le Pique-Assiette, épisode 4, le coup de maître, une série d'Alain Lefkovitch et Sonia Kronlund en partenariat avec Society. Enquête Inès Bouffartigue-Sébastia avec des extraits d'un documentaire d'Olivier Chaumel. Réalisation Éric Lancien, Anne-Laure Chanel et Gilles Davidas. Merci à Adila Benedjaizou pour ses conseils en narration, à Valentin Rémy, l'attaché de production des Pieds sur Terre, à Luce Mourant et à Gilles Lavanant qui signe la musique de cette série. You say she was never my type. Lovers are strangers. There's nothing to discuss. Hearts will be faithful. Well, the truth is told to someone else. Lovers are strangers. There's nothing to discuss. Hearts will be faithful. Well, the truth is told to someone else. When you look up, tell me who you really love. When you look up, tell me who you really love. Fall comes by surprise. Faithful, while the truth is told to someone else.